Motif du crime paranoïaque. Le crime des sœurs Papin. Un soir, le 2 février, cette obscurité se matérialise par le fait d'une banale panne de l'éclairage électrique. C'est une maladresse des sœurs qui l'a provoquée et les patronnes absentes ont déjà montré, lors de moindres propos, des humeurs vives. Qu'ont manifesté la mère et la fille lorsqu'à leur retour, elles ont découvert le mince désastre? Les dires de Christine ont varié sur ce point. Quoi qu'il en soit, le drame se déclenche très vite et sur la forme de l'attaque, il est difficile d'admettre une autre version que celle qu'ont donnée les sœurs, à savoir qu'elle fut soudaine, simultanée, portée d'emblée au paroxysme de la fureur. Chacune s'empare d'une adversaire, lui arrache vivante les yeux des orbites, fait inouï, a-t-on dit, dans les annales du crime, et l'assomme. Puis, à l'aide de ce qui se trouve à leur portée, marteau, pichet d'étain, couteau de cuisine, elles s'acharnent sur les corps de leurs victimes, leur écrasent la face et, dévoilant leur sexe, tailladent profondément les cuisses et les fesses de l'une pour souiller de ce sang celle de l'autre. Elles lavent ensuite les instruments de ces rites atroces, se purifient elles-mêmes et se couchent dans le même lit. En voilà du propre. Telle est la formule qu'elles échangent et qui semble donner le ton du dégrisement, vidé de toute émotion, qui succède chez elle à l'orgie sanglante. Aux juges, elles ne donneront de leur acte aucun motif compréhensible, aucune haine, aucun grief contre leurs victimes. Leur seul souci paraîtra de partager entièrement la responsabilité du crime. À 3 médecins experts, elles apparaîtront sans aucun signe de délire ni de démence, sans aucun trouble actuel psychique ni physique, et force leur sera d'enregistrer ce fait. Dans les antécédents du crime, des données trop imprécises, semble-t-il, pour qu'on puisse en tenir compte. Une démarche embrouillée des sœurs auprès du maire pour obtenir l'émancipation de la plus jeune, un secrétaire général qui les a trouvées piquées, un commissaire central qui témoigne les avoir tenues pour persécutées. Il y a aussi l'attachement singulier qui les unissait, leur immunité à tout autre intérêt, les jours de congé qu'elles passent ensemble et dans leur chambre. Mais s'est-on inquiété jusque-là de ces étrangetés? On en met encore un père alcoolique, brutal, qui, dit-on, a violé une de ses filles, et le précoce abandon de leur éducation. Ce n'est qu'après 5 mois de prison que Christine, isolée de sa sœur, présente une crise d'agitation très violente, avec hallucinations terrifiantes. Au cours d'une autre crise, elle tente de s'arracher les yeux, certes en vain, mais non sans se léser. L'agitation furieuse nécessite cette fois l'application de la camisole de force. Elle se livre à des exhibitions érotiques, puis apparaissent des symptômes de mélancolie. Dépression, refus d'aliments, auto-accusation, actes expiatoires d'un caractère répugnant. Dans la suite, à plusieurs reprises, elle tient des propos à signification délirante. Disons que la déclaration de Christine d'avoir simulé tel de ses états ne peut aucunement être tenue pour la clé réelle de leur nature. Le sentiment de jeu y est fréquemment éprouvé par le sujet, sans que son comportement en soit moins typiquement morbide. Le 30 septembre, les sœurs sont condamnées par le jury. Christine, entendant qu'elle aura la tête tranchée sur la place du Mans, reçoit cette nouvelle à genoux. Cependant, les caractères du crime, les troubles de Christine dans la prison, les étrangetés de la vie des sœurs avaient convaincu la majorité des psychiatres de l'irresponsabilité des meurtrières. Devant le refus d'une contre-expertise, le docteur Logre, dont on connaît la personnalité hautement qualifiée, crut pouvoir témoigner à la barre pour leur défense. Fût-ce la règle de rigueur inhérente au clinicien magistral ou la prudence imposée par des circonstances qui le mettaient en posture d'avocat, le docteur Logre avança non pas une, mais plusieurs hypothèses sur l'anomalie mentale présumée des sœurs. Idée de persécution, perversion sexuelle, épilepsie ou hystéro-épilepsie. Si nous croyons pouvoir formuler une solution plus univoque du problème, nous voulons d'abord en rendre hommage à son autorité, non seulement parce qu'elle nous couvre du reproche de porter un diagnostic sans avoir examiné nous-mêmes les malades, mais parce qu'elle a sanctionné de formules particulièrement heureuses certains faits très délicats à isoler, et pourtant, nous allons le voir, essentiels à la démonstration de notre thèse. Il est une entité morbide, la paranoïa, qui, malgré les fortunes diverses qu'elle a subies avec l'évolution de la psychiatrie, répond en gros au trait classique suivant. Petit a, un délire intellectuel qui varie ses thèmes des idées de grandeur aux idées de persécution. Petit b, des réactions agressives très fréquemment meurtrières. Petit c, une évolution chronique. Deux conceptions s'opposer jusqu'ici sur la structure de cette psychose. L'une la tient pour le développement d'une constitution morbide, c'est-à-dire d'un vice congénital du caractère, l'autre en désigne les phénomènes élémentaires dans des troubles momentanés de la perception, qu'on qualifie d'interprétatifs, à cause de leur analogie apparente avec l'interprétation normale. Le délire est ici considéré comme un effort rationnel du sujet pour expliquer ses expériences, et l'acte criminel comme une réaction passionnelle dont les motifs sont donnés par la conviction délirante. Bien que les phénomènes dits élémentaires aient une existence beaucoup plus certaine que la constitution prétendue paranoïaque, on voit facilement l'insuffisance de ces deux conceptions, et nous avons tenté d'en fonder une nouvelle sur une observation plus conforme au comportement du malade. Nous avons reconnu ainsi comme primordial, tant dans les éléments que dans l'ensemble du délire et dans ses réactions, l'influence des relations sociales incidant à chacun de ces trois ordres de phénomènes. Et nous avons admis comme explicative des faits de la psychose la notion dynamique des tensions sociales dont l'état d'équilibre de rupture définit normalement dans l'individu la personnalité. La pulsion agressive qui se résout dans le meurtre apparaît ainsi comme l'affection qui sert de base à la psychose. On peut la dire inconsciente, ce qui signifie que le contenu intentionnel qui la traduit dans la conscience ne peut se manifester sans un compromis avec les exigences sociales intégrées par le sujet, c'est-à-dire sans un camouflage de motifs qui est précisément tout le délire. Mais cette pulsion est empreinte en elle-même de relativité sociale. Elle a toujours l'intentionnalité d'un crime, presque constamment celle d'une vengeance, souvent le sens d'une punition, c'est-à-dire d'une sanction issue des idéaux sociaux. Parfois, enfin, elle s'identifie à l'acte achevé de la moralité, elle a la portée d'une expiation, auto-punition. Les caractères objectifs du meurtre, son électivité quant à la victime, son efficacité meurtrière, ses modes de déclenchement et d'exécution varient de façon continue avec ces degrés de la signification humaine de la pulsion fondamentale. Ce sont ces mêmes degrés qui commandent la réaction de la société à l'égard du crime paranoïaque, réaction ambivalente, à double forme, qui fait la contagion émotionnelle de ce crime et les exigences punitives de l'opinion. Tel est ce crime des sœurs Papin. Par l'émotion qu'il soulève et qui dépasse son horreur, par sa valeur d'image atroce, mais symbolique jusqu'en ses plus hideux détails. Les métaphores les plus usées de la haine, « je lui arracherai les yeux », reçoivent leur exécution littérale. La conscience populaire révèle le sens qu'elle donne à cette haine en appliquant ici le maximum de la peine, comme la loi antique au crime des esclaves. Peut-être, nous le verrons, se trompe-t-elle ainsi sur le sens réel de l'acte, mais observons à l'usage de ceux qu'effraie la voie psychologique où nous engageons l'étude de la responsabilité, que l'adage « comprendre, c'est pardonner » est soumis aux limites de chaque communauté humaine, et que hors de ces limites, comprendre ou croire comprendre, c'est condamner. Le contenu intellectuel du délit nous apparaît, nous l'avons dit, comme une superstructure à la fois justificative et négatrice de la pulsion criminelle. Nous le concevons donc comme soumis aux variations de cette pulsion, à la chute qui résulte, par exemple, de son assouvissement. Dans le cas princeps du type particulier de paranoïa que nous avons décrit, le cas aimé, le délire s'évanouit avec la réalisation des buts de l'acte. Nous ne nous étonnerons pas qu'il en ait été de même pendant les premiers mois qui ont suivi le crime des sœurs. Les défauts corrélatifs des descriptions et des explications classiques ont longtemps fait méconnaître l'existence, pourtant capitale, de telles variations, en affirmant la stabilité des délires paranoïaques, alors qu'il n'y a que constance de structure. Cette conception conduit les experts à des conclusions erronées, et explique leur embarras en présence de nombreux crimes paranoïaques où leur sentiment de la réalité se fait jour malgré leur doctrine, mais n'engendre chez eux que l'incertitude. Chez les sœurs Papin, nous devons tenir la seule trace d'une formulation d'idées délirantes antérieures au crime pour un complément du tableau clinique. Si l'on sait qu'on la trouve dans le témoignage du commissaire central de la ville principalement, son imprécision ne saurait aucunement le faire rejeter. Tout psychiatre connaît l'ambiance très spéciale qu'évoque très souvent on ne sait quelle stéréotypie des propos de ses malades, avant même qu'ils s'explicitent en formules délirantes. Que quelqu'un ait seulement une fois expérimenté cette impression, et l'on ne saurait tenir pour négligeable le fait qu'il la reconnaisse. Or, les fonctions de triage des centres de la police donnent l'habitude de cette expérience. Plusieurs thèmes délirants s'expriment chez Christine.